1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Nous allons débuter cette émission avec ce soir la suite de la thématique qui nous occupe pendant ce mois de mai. Il s'agit de la campagne au nom du profit des multinationales. Et pour cette deuxième partie, nous allons parler du pétrole, Fabio.
Oui, c'est bien ça. On va en principe, vu qu'il n'est pas encore là, mais recevoir un journaliste d'origine tchadienne, spécialiste des enjeux énergétiques pour parler du pétrole justement au Tchad et au Nigeria.
Effectivement, on espère qu'il n'est pas coincé dans les bouchons, quoique le pétrole, l'essence, on n'est pas très loin. Et puis, le pétrole, il en sera question également dans Cultiver Lausanne. Nous allons joindre un polar traitant de l'or noir, Jean-Luc.
Oui, nous avons Sébastien Maillère qui vient de nous parler de son livre. Enfin, il est là déjà, donc une belle émission en relation aussi avec toute cette question sur les multinationales.
Ce sera donc dans quelques instants. À 18h35, nous retrouverons les mardis de Stéphane Venanzi, la chronique d'actualité culturelle. Et puis, à 7h20, ce sera les regards croisés d'Erika. Il sera question d'éducation. Et puis, on terminera cette émission à 7h10 avec la rose des vents et puis le portrait d'Aline qui nous offre le portrait du mois, vous le connaissez bien. Il sera question ce soir du portrait de la chanteuse et chorégraphe Yongson Cho Jacquet. Le pétrole est à l'honneur de la campagne au nom du profit et du polar de Sébastien Meyer. Les mardis de Stéphane Venanzi, le portrait du mois de Yongson Cho Jacquet et les regards croisés sur l'éducation. C'est le programme de ce mardi 17 mai sur Radio Django, émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud, ou à écouter bien sûr sur radio.django.fm. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et puis, autrement, ça va, Fabio ?
Oui, ça va bien.
Bon,
oui,
bien.
Ça va très bien. Bon, bah, et toi, Fabien ?
Mais très bien, merci. Ben voilà, autrement, ça va est aussi le nom d'un collectif formé par 4 espaces de débat lausannois : l'espace Dickens, la maison de quartier Sougar, alliant thème commun consacré aux multinationales au nom du profit. Tout est permis. Donc, Django s'est associé à cet événement et vous propose quelques regards radiophoniques. Alors, après s'être intéressé à l'industrie électronique mardi dernier, aujourd'hui, accueillir Franck Codbey, journaliste d'origine tchadienne, spécialiste des enjeux énergétiques. Comme nous l'avons mentionné dans le sommaire, nous accueillons également Sébastien Meyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur de Le nom du père, un polar qui jette une lumière crue sur la Suisse, des banques et des montages fiscaux. Mais avant d'aborder votre polar et pour introduire le sujet sur le négoce du pétrole, nous vous proposons de prolonger dans cette mise en onde d'une séquence du roman de Sébastien Maillère qui devrait déjà vous éclairer sur l'évasion fiscale et la corruption. Mais écoutons plutôt.
La procureure Émilie Rossetti rencontre Franz Wengler de la déclaration helvétique au buffet première classe à l'extrémité ouest du quai numéro 1. C'est une brasserie d'une cinquantaine de tables, dotée d'un plafond à 10 mètres et de peintures sans finesse, représentant l'essence même de la Suisse, le cervin, lucerne, le lémon et un bateau belle époque, de la nature et du blanc, de la paix et de la tranquillité.
Pour schématiser, les négociants ont pour mission de faire transiter aussi rapidement que possible des ressources naturelles des pays producteurs vers des pays consommateurs. Dans certains cas, la chose peut se résumer ainsi. Faire sortir des matières premières vitales des pays qui en ont besoin pour les vendre à des pays qui les gaspillent, le tout virtuellement, cela va de soi. Vous imaginez que ces tonnes de matières premières ne transitent pas réellement par Genève. Sur le papier, c'est pourtant le cas. Beaucoup de ces matières sont produites par une filiale locale, d'une banque suisse par exemple, qui revend à la filiale genevoise. Celle-ci revend ensuite à d'autres filiales qui, finalement, les revendent aux consommateurs. En fait, même si la cargaison n'a toujours pas quitté le port de départ, elle a déjà été vendue 3 ou 4 fois, et ainsi de suite jusqu'à sa consommation.
C'est la base même du commerce, non ?
Absolument. Le problème est que ce système ultra-libéral est devenu incontrôlable. Les opérations effectuées sont de plus en plus extrêmes.
Quelques temps plus tard, la procureure se retrouve avec l'inspecteur Paul Breguet.
Regarde, là, j'ai trouvé.
Quoi ?
Là, la retranscription du conseil d'administration extraordinaire de l'Union Trading en juillet 2010. Sont présents nos deux banquiers helvétiques, deux représentants de la Société nationale nigérienne du commerce du pétrole, Whiteman, Patrick Kelly. Patrick Kelly y annonce un soulèvement du peuple Ogoni dans une région clé de la production du pétrole au Nigeria.
Et alors ?
Un des banquiers suisses suggère qu'on mate la révolte. Et un peu plus loin, il annonce également que sa banque souhaite faire descendre encore le prix d'achat du pétrole. Les deux représentants nigérians protestent, mais le banquier les rassure. Si la transaction est un succès, votre part vous attendra dans les sous-sols de la place Saint-François. De la corruption pure. Un cas d'école. Ce que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle un échange aussi dangereux se trouve notifié dans un procès-verbal.
Ah, pourquoi pas ? Ces entreprises ne doivent de compte à personne. Elles ne sont en aucun cas obligées de dévoiler leur cuisine interne.
Non, tout de même, la prise de risque est énorme.
Peut-être aussi qu'il s'agit d'une retranscription officieuse. Ça pourrait être quelqu'un qu'ils auraient espionné durant la réunion.
C'est possible. Ce qui est certain, c'est que notre informateur a réussi à reconstituer le montage foireux des banquiers suisses. Si tu veux mon avis, les choses se passent comme ça. Étape numéro 1. Grâce à ses petits amis, l'Union Trading achète à la compagnie nationale nigériane du pétrole à prix bradé. $83 le baril, revendu à $85 aux Suisses. Soit un bénéfice net de $73 millions par année. Ce bénéfice est versé à Wash Machine, grâce, j'imagine, à une série de prétextes foireux du genre...
Optimisation fiscale.
Exactement. Wash Machine ouvre ensuite des comptes dans une grande banque suisse, puis via des sociétés écrans, rétribue Whiteman et Kelly pour leurs services.
Donc chaque année, les deux hommes, qui ont l'air d'être assez proches du pouvoir fédéral nigérian, empochent $36,4 millions.
Simplement pour avoir accordé à l'Union Trading le droit de négocier le pétrole que la Société nationale nigérienne du commerce du pétrole vend à la Suisse.
Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ce serait quoi ?
Deuxième étape, la banque suisse, unique client de Union Trading, revend ce même pétrole à ses propres clients. Mais cette fois-ci au prix du marché, soit en ce moment quelques $90. Elle prend $5 de marge sur chaque baril, ce qui fait 82,5 millions de marge chaque année.
Waouh, pas mal !
Sur ces 82,5 millions, estimons à 20% le montant que la banque suisse peut légalement déclarer.
C'est-à-dire ?
Si elle avait acheté du pétrole à l'Union Trading à un prix normal, elle aurait eu une marge moins importante. J'estime donc que ces 82,5 millions sont composés à 20% de marge normale et à 80% de marge exceptionnelle ou frauduleuse.
Ok, donc en fait, la partie légale, elle suit le circuit habituel, donc elle transite via toutes les filiales des banques suisses à travers le monde pour trouver le meilleur paradis fiscal.
Le reste, l'exceptionnel, est discrètement versé à l'une des multiples sociétés créées par nos deux banquiers. Le banquier, l'avocat et le négociant se taillent la part du lion et se partagent 80% des bénéfices occultés de la banque suisse sur le pétrole nigérian, ce qui nous fait la somme de 66 millions par année. C'est pratique, c'est divisible par 3. 22 millions par tête de pipe. Bande d'enfoirés.
Eh bien voilà, on vient d'entendre cette mise en onde du, on en parlera tout à l'heure avec Sébastien Meyer, d'une partie de son roman qui se joue notamment entre la Suisse et le Nigeria sur fond de pétrole et de banque et de corruption. Alors nous attendions, vous le disiez tout à l'heure, un journaliste d'origine tchadienne, Franck Côte-Baille, spécialiste des enjeux énergétiques, pour discuter un peu de ça, vu que c'est un bon observateur de ce qui se passe et au Nigeria et au Tchad. Il n'est pas là, mais voilà, l'idée avec lui, c'était de faire un petit peu le bilan de ce qui se passe dans ce pays, surtout le Tchad, son pays.
Oui, pourquoi le Tchad particulièrement ?
Parce que c'est un pays duquel on extrait beaucoup de pétrole depuis 2003, en fait. Contrairement au Nigeria, on le fait depuis beaucoup plus longtemps. Et visiblement, le Tchad et le pétrole... Enfin, le pétrole pour le Tchad, c'est un peu univoque. C'est vraiment une grande partie de du PIB national. Il n'y a pas beaucoup de... c'est pas vraiment une économie diversifiée comme le peut être le Nigeria. Le Tchad est sous perfusion du pétrole. Notamment, il y a un oléoduc qui part de ce pays jusqu'au Cameroun. Et bien sûr, lorsque le pétrole, comme en 2015, il a subi une forte baisse, ben le pays se trouve vraiment à court de devises et dans des situations assez difficiles. On voulait aussi, avec Franck, parler de qu'est-ce qui est fait dans le pays pour, notamment en termes de surveillance, de, notamment des grandes firmes de négoce du pétrole. Et on parle bien sûr de Glencore, vu qu'on est dans une rubrique qui parle des profits faits ici en Suisse, le géant suisse des matières premières Glencore, dont le siège se trouve à Zoug, et qui joue un rôle de premier plan dans l'exploitation du pétrole dans cette partie d'Afrique centrale. Rappelons-le, le Tchad, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Alors, comment la société civile réagit par rapport au fait que Glencore extrait ce pétrole aussi dans des conditions assez déplorables, avec des atteintes à l'environnement assez grandes? On voulait parler de ça aussi avec Franck, toujours le bon observateur de ce qui se passe là-bas. J'ai sous les yeux un article qui avait été fait par Swissed, mais déjà en 2014, qui parlait d'organisations qui sont au Tchad et qui tentent avec courage de jouer un rôle de lanceur d'alerte. Il y a notamment une commission permanente pétrole locale qui se rend sur les sites où le pétrole est extrait pour constater beaucoup de cas de déversement sauvage de brut en pleine nature, notamment par la compagnie Glencore. Et voilà. Alors, on va peut-être en discuter un petit peu avec Sébastien. Ces informations que je viens de donner un peu brutes comme ça, est-ce que, comment toi, t'as réussi à les glaner pour monter ton roman Le Nom du Père?
Un peu de la même manière. Dans Le Nom du Père, il n'y a pas vraiment d'informations qui soient particulièrement nouvelles. Tout ce qui est décrit et écrit dans le livre sont des informations que j'ai pu trouver soit dans le livre de la déclaration de Berne qui s'appelle Swiss Trading, soit dans des coupures de presse, soit dans des journaux. Donc, je veux dire, ce sont des sujets qui sont assez récurrents et dont on parle assez fréquemment. Après, l'avantage de la fiction, c'est-à-dire en l'occurrence du roman, c'est de pouvoir élargir les informations que j'ai pu glaner ci et là pour reconstituer une histoire qui soit cohérente et qui donne l'impression d'aller du début à la fin de la chaîne, justement, du négoce des matières premières.
Alors, peut-être quelques mots sur l'intrigue de votre polar. Paul Breguet, ancien inspecteur de police, sort de prison après plus de 2 ans de détention. Avec l'aide de la séduisante procureure Émilie Rossetti, l'ex-flic torturé décide d'élucider le mystère qui entoure la mort étrange de son amant Romain Baptiste. Au fil de l'enquête, il tombe sur les réseaux de prostitution, découvrant des affaires gênantes, voire dangereuses pour la survie de la Confédération helvétique et pour eux-mêmes.
Oui, voilà, ça c'est, là on parle beaucoup des réseaux de prostitution, c'est parce que Le Nom du Père, qui est donc le roman dont on parle aujourd'hui, est la suite du premier, qui s'appelle Les Ombres du Métis, et qui lui jetait plutôt une lumière sur les réseaux de prostitution. Dans le deuxième, je m'intéresse de beaucoup plus près, justement au milieu économique, au milieu du négoce, au milieu bancaire, etc. Donc c'est plutôt voilà, la scission entre les deux. Paul Breguet, donc le personnage principal, qui était déjà dans le premier, qui revient dans le deuxième, et qui... forcé, contraint, va enquêter sur une multinationale du négoce qui s'appelle dans le roman BF Hague et qui est un peu un clone de ce que dans la réalité on pourrait désigner comme Glencore.
Par exemple.
Jean-Luc. Pour revenir à ces investigations que vous avez menées, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Enfin, la déclaration de Berne dénonce quand même beaucoup ce qui se pratique hein, au niveau des multinationales, surtout du négoce du pétrole. Mais en fait, comment vous avez abordé le sujet? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut lire des livres, après on peut aller discuter, mais enfin, quelle était la démarche, en fait, pour... Je sais que... j'ai lu que vous étiez très intéressé par l'économie, hein, parce que tout le monde financier. Donc c'est quand même une volonté de votre part d'aller vraiment chercher l'information avant d'écrire le roman. Quoi.
Oui, ouais, tout à fait. Et puis particulièrement sur ce roman-là. Alors, par rapport au monde économique, de toute manière, c'est effectivement un univers qui m'intéresse énormément et que j'ai depuis toujours très envie de creuser et que je creuse régulièrement. Enfin, je me tiens assez au courant de ce qui se passe pour une simple raison, c'est que je considère que c'est une clé de lecture très très importante du monde dans lequel on vit. et qui est de manière générale considérée comme opaque. On ne comprend rien à ce qui se passe, la grande finance, les bourses et tout ça sont des choses qui finalement, pour le commun des mortels ou pour des gens comme moi, sont assez abstraites, absconses et incompréhensibles. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est d'aller creuser ça, c'est de s'intéresser à ça, puisque finalement, ça guide continuellement notre quotidien. Pour le nom du père, c'est donc plus de 2 ans de recherche, pas forcément à 100%, pas forcément effective, mais c'est 2 ans de réflexion autour du milieu du négoce des matières premières qui a démarré par une lecture qui est tombée un peu par hasard entre mes mains et qui était Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent de Jean Tiglère. Puis à partir de là, je suis monté à rebours dans l'œuvre de Jean Tiglère. J'ai donc beaucoup, beaucoup lu ce que ce monsieur a écrit, avec beaucoup d'admiration d'ailleurs pour ce qu'il a été capable d'écrire et à l'époque surtout à laquelle il a été capable d'écrire ses premiers livres qui dénonçaient notamment le blanchiment d'argent en Suisse. Et puis, petit à petit, je me suis dirigé vers le négoce, de lecture en lecture. Une fois que j'avais beaucoup d'informations, disons, techniques et factuelles sur ce milieu-là, une fois que j'avais un petit peu compris les dynamiques, la manière dont ça se passe, par où le pétrole voyage entre les négociants, les producteurs, les acheteurs, etc., quelle est la différence entre le marché libre et puis la production des multinationales, quelle est la différence entre un négociant en pétrole à Genève et puis une multinationale de type Shell, Exxon ou British Petroleum. Il y a une grande différence, donc il a fallu comprendre un peu tout ça. Et je me suis retrouvé avec une montagne de données qu'il a fallu rendre romanesque. Et c'est là que sont intervenues des interviews.
C'est là qu'intervient l'écrivain.
C'est là qu'intervient l'écrivain, mais c'est aussi là qu'interviennent les vrais gens, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui pratiquent ça. Donc j'ai rencontré des banquiers, j'ai rencontré des traders, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans des ONG. Pas tellement pour leur soutirer des informations, parce que de toute façon, ils n'avaient rien à me dire de particulier, mais surtout pour sentir voilà, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font, comment ils défendent leur métier, comment est-ce qu'on est trader alors que parce que sinon j'avais pas envie de faire un livre qui soit monolithique et puis militant et puis qui ne fasse que dénoncer ça. J'avais aussi envie de pouvoir parler de voilà comment ces gens-là vivent quand on négocie, comment ça se passe quand on est content d'avoir fait 1 million de bénéfices sur une transaction sur le riz alors qu'on sait très bien et on se doute très bien que cette augmentation du prix du riz va réduire des gens à la famine.
Mais en quelques mots par rapport à l'extrait qu'on a pris là, au début, est-ce que ça serait possible de synthétiser en quelques mots les mécanismes quoi, veux dire, pour un petit résumé ? Parce que vous le faites très bien dans votre livre. Est-ce que...
Dans le livre, c'est déjà une synthèse et c'est déjà disons, un peu cavalier, comme, c'est bourré de raccourcis. Mais disons que pour la situation qui m'a intéressé dans ce roman, on a donc cette gigantesque multinationale qui s'appelle BFAG, qui est basée à Lausanne, qui a une succursale à Genève pour des questions de proximité avec la place financière, et puis qui a après des succursales un peu partout dans le monde. Et il y a une société de joint venture qui s'appelle Union Trading et qui sert en fait les intérêts à la fois de la BFAG et de la NNPC, enfin National Petrol Company du Nigeria, et qui, elle, est chargée de récolter les impôts que lui payent en baril les majors américaines qui font l'exploitation à proprement parler. Donc la multinationale que moi je décris ne fait pas d'exploitation directe, mais elle se contente de récupérer des impôts en payant et en corrompant. Des hauts dignitaires nigérians.
Donc, en offrant des pots de vin.
Voilà, des pots de vin et tout ça qui se retrouvent.
Enfin, plus que des pots de vin. C'est des gros pots de vin.
C'est des très gros pots de vin qui se chiffrent en millions, etc. Donc voilà, c'est un peu ça la dynamique. Donc récupérer du pétrole nigérian en offrant des pots de vin, le faire transiter ensuite entre Genève et un peu partout dans le monde pour faire de l'évasion fiscale, etc. etc., etc. Dans la réalité, les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça, c'est évident. Un peu plus opaque aussi, parce que si c'était aussi simple que ça, je pense qu'il y a longtemps qu'ils auraient cessé leur petite magouille. Mais pour un roman, c'était suffisant et suffisamment crédible. Donc la dynamique est réelle, elle est crédible. Après, c'est un peu plus complexe, disons.
Alors on reviendra peut-être tout à l'heure à l'aspect militant que peut prendre votre livre. Mais je trouvais intéressant de voir le passage justement de toute cette matière que vous accumulez. Et ensuite, comment on construit un roman quoi, avec tous ces personnages qui sont quand même fascinants. Et surtout, c'est des personnages qui existaient déjà dans votre premier, premier roman.
Oui, c'est tous les personnages du premier roman. Alors, du coup, j'ai aussi choisi d'avoir, par rapport à ces personnages, un regard très naïf dans le sens où aucun des deux, que ce soit Rossetti ou Paul Breguet, ne connaissent exactement le milieu du négoce. Et ne
Ils sont rien. Un peu naïfs, à quelque part.
Ils sont
part.
Un peu naïfs. Donc, quelque part, ce qui était intéressant là, c'était de pouvoir faire découvrir à ces personnages les réalités de ce milieu en même temps que je le fais découvrir au lecteur et que je le découvrais moi-même. Donc, ça, c'était une sorte de facilité. Donc, je n'ai pas choisi un journaliste qui était déjà hyper au courant, parce que sinon, toutes les explications auraient eu l'air redondantes, un peu pédantes. Et puis, vrai, je n'avais pas du tout envie de faire la leçon, genre, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et puis apprenez de ce livre. Ce n'est pas du tout l'enjeu. Moi, mon but, c'était de faire un roman à suspense, de faire un vrai thriller économique qui ait du rythme, qui soit agréable à lire, qu'on ait envie de lire, et que néanmoins, on en apprend un petit peu quelque chose sur le monde qui nous entoure. Pour moi, c'était vraiment ça l'enjeu. Et pour parvenir à ça, il fallait... fallait pas que je perde de vue que j'étais en train d'écrire une fiction et non pas un pamphlet disons un livre de qualité journalistique. Je suis vraiment dans la fiction.
Mais c'est une bonne façon d'atteindre le public sans s'appeler Jean Sigler, qui a fait des merveilles avec de descriptions dans ses livres, mais d'atteindre un public qui adore les romans policiers, tout en apprenant que derrière il y a un marché corrompu, que le monde fonctionne un peu comme vous le décrivez là, c'est-à-dire avec une sacrée jambe cassée, quoi.
Oui, c'était un peu le but du jeu, c'était de mêler l'utile à l'agréable, disons. Mêler une lecture qui soit plaisante, qui soit rythmée, qui ne vous plombe pas non plus votre dimanche soir, parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus aussi de se scandaliser pour tout et de rien, et d'être perpétuellement titillé dans notre indignation. Donc le but du jeu, c'était d'apporter un éclairage qui soit assez froid, et puis qu'en tant que lecteur, on se sente ni bête, ni impuissant, ni coupable, ni complice, ni rien du tout, mais simplement d'apporter un éclairage. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ça.
Et puis, votre découverte à vous de ce monde-là, vu qu'avant de l'écrire et avant de le transmettre au lecteur, ben, vous l'avez découvert, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était quoi ? Vous tombiez des nues ?
Non, je ne tombais pas des nues, dans le sens où, enfin, je veux dire, il faudrait être... particulièrement naïf pour penser que
ou déconner,
dans ces sphères-là, les choses se passent dans le meilleur des mondes et puis que tout est joli. Enfin, je veux dire, on sait assez bien qu'à la fin de la chaîne, il y a beaucoup d'argent pour nous et puis au début de la chaîne, il y a des morts pour eux. Donc c'est ça, c'était pas nouveau. Après, ce qui était étourdissant, ce qui m'a glacé le sang, c'était de voir la complexité de ce qui a été mis en place, l'absurdité et la bêtise généralisée qui consiste à mettre en place ces systèmes-là par simple cupidité et à pas du gain. Et il y a vraiment, dans Swiss Trading par exemple, il y a des anecdotes qui sont effarantes de bêtises. Le type qui négocie du pétrole puis qui se rend pas compte que ce pétrole il faut le raffiner d'abord, mais comme il est tellement dégueulasse, personne veut le raffiner, donc il le raffine sur un raffio, enfin sur un pétrolier. Et puis ça fait des déchets, puis les déchets sont en train de ronger la coque, et puis personne ne sait où il va foutre ses déchets, puis finalement il termine en Europe du Nord, ça crée une énorme catastrophe écologique, et tout ça est une bêtise profonde. C'est vraiment, le type il s'est dit je vais faire un bon coup, je vais me faire plein de millions, super, bravo, haha, il a fait péter le champagne, et puis deux mois plus tard il s'est rendu compte qu'il avait généré la plus grosse catastrophe écologique de l'Europe du Nord. Il faut vraiment être con.
Mmh. Et le dénoncer, on sait que ça ne suffit pas. Hein. Et c'est un petit peu la problématique qui existe. Hein. C'est que des fois, on est démunis face à cette question. Mais par contre, on sait qu'il y a une initiative qui a été lancée. J'imagine que vous la connaissez, quoi, celle de multinationales responsables protégeant des droits humains. Est-ce que vous pensez qu'un livre tel que le vôtre puisse faire, puisse sensibiliser les gens à ce niveau-là, puisse être aussi... Je veux dire, une bonne lecture de base aussi pour que des gens se réveillent un peu par rapport à ça.
Ça, j'en sais rien. Je pense que c'est à chacun de considérer ce qu'il a envie de faire ou de ne pas faire avec les informations qui sont contenues dans ce livre. Moi, j'ai juste essayé de présenter une situation avec le plus d'honnêteté intellectuelle possible. C'est-à-dire que j'ai aussi essayé de présenter avec bonne foi le point de vue, par exemple, du PDG de cette grande multinationale et des raisons pour lesquelles il est à ce stade-là.
On parle de Beat Flückiger.
Oui, Beat Flückiger, qui est donc le patron de la BFAG et qui défend un discours ultra-protectionniste, à la limite du patriotisme rudimentaire, comme quoi, ben voilà, si c'est pas la Suisse qui fait ce genre de transactions, ce seront d'autres, donc autant les faire nous et puis gagner du pognon avec ça. Il est ultra cynique, c'est odieux, mais j'ai aussi essayé de présenter ça avec le plus d'honnêteté pour me dire, bon ben voilà, ça fait aussi partie des réalités dans lesquelles évoluent mes personnages et dans lesquelles nous évoluons tous. Après, je crois que c'est pas la mission de ce livre, que c'est pas un livre militant, il a pas pour mission de sensibiliser les gens à quoi que ce soit. Tout ce qui m'intéressait, c'était de plonger dans ce milieu-là et puis d'en dire quelque chose, et puis voilà.
D'ailleurs, vous l'avez aussi dit que c'est un livre qui a été réécrit plusieurs fois parce que justement vous deviez jouer en fait cette question d'intrigue et toutes ces notions, enfin je dis, toute cette connaissance que vous aviez accumulée. Et ça, c'était assez compliqué justement de jouer là-dessus, hein, ce que vous avez dit tout à l'heure. Quoi.
Oui, ça a été extrêmement difficile de trouver en fait le bon équilibre entre déballage d'informations factuelles sur ce monde-là, fiction, rythme, être dans la réalité, être dans la fiction. C'était très très délicat, donc ça, c'est effectivement un livre qui m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps de l'écrire, j'ai dû revoir ma copie un nombre de fois incalculable pour justement trouver cet équilibre qui fait qu'on a un livre qui à la fois se tient en lui-même et comme œuvre littéraire et à la fois une présentation honnête intellectuellement d'un contexte, disons.
Alors Fabio, on va écouter un extrait de musique que tu as choisi hein, pour faire un morceau, là, fais-la.
Mais volontiers, un petit fais-la.
Je crois que ça ne fait pas de mal.
Oui, allez, pour lever l'ambiance.
On écoute quelques notes donc, de fais-la Kuti.
International Titi. International Titi. International Titi.
ITT.
International Titi.
International Titi.
International Titi.
Oh.
International Titi. International Titi.
ITT.
International Titi.
International Rook.
International Titi. International Titi. International Titi.
Wale 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 wale.
Voilà, c'est quelques notes de Fela Kuti, parce que c'est quand même un morceau qui, il faut le souligner, Fabio, qui fait 13 minutes 15, hein, c'est ça. Voilà, ça donne une petite ambiance.
Et tous les morceaux de Fela sont très très longs.
Oui, ils sont bien connus pour
ça. Magnifique musicien nigérian.
Nous sommes en compagnie de notre invité Sébastien Meyer pour parler du négoce des matières premières, du pétrole notamment. Fabio, quelques mots peut-être par rapport à cette initiative dont tu nous parlais juste avant cette pause musicale.
Dont parlait Jean-Luc tout à l'heure, une initiative des multinationales responsables qui prévoit l'introduction dans la loi suisse d'un devoir de diligence des entreprises. On parlait de Glencore, donc de ces entreprises de négoce. Et qui ne paye en principe, enfin, qui arrive à payer extrêmement peu d'impôts dans les pays dans lesquels elles travaillent, là où elles font de l'extraction de pétrole ou d'autres matières, que ce soit le cuivre, l'or ou les céréales, etc. Et en Suisse non plus, elles sont pas du tout surveillées. Par rapport à toute une série d'actions néfastes qu'elles ont dans les pays, notamment en termes de non-respect des droits humains et des droits de l'environnement. Et cette initiative qui va être déposée le mois d'octobre à Berne et qui a été lancée par une septantaine d'organisations non gouvernementales en Suisse, elle veut justement mettre dans la Constitution suisse un article qui prévoit l'interdiction, enfin le devoir de diligence de ces entreprises pour qu'il y ait un contrôle sur leur action dans les pays.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces multinationales partent du territoire suisse ? Du coup, on perd carrément tout ?
Bon, alors c'est ce qu'on dit, et c'est d'ailleurs le peuple vaudois a voté il n'y a pas très longtemps la troisième réforme sur l'imposition des entreprises, et qui, on l'a vu, fiscalement, elle est très généreuse envers toute une série d'entreprises qui devraient plutôt jouer leur rôle de fiscal normal. Et puis, il y a toujours ce couperet qui est fait tomber par notamment le gouvernement local ou fédéral. Comme tu viens de dire, si on les impose trop, ces entreprises risquent de partir. Et puis voilà, il y a toute une partie de deniers qui ne rentrent pas dans les caisses collectives. Le discours, il est là. La discussion est ouverte. Le peuple vaudois a pris une décision. Il y aura une initiative, un référendum lancé au niveau fédéral.
Qui sera certainement voté en fin d'année.
Alors, je ne sais pas quand.
Sébastien Maillard, vous avez déjà une idée, une information là-dessus ?
Non, je n'ai pas d'information particulière, mais j'anticipe assez facilement l'argument selon lequel, effectivement, toutes ces entreprises vont se tirer, elles vont aller faire de l'argent ailleurs. J'ai envie de dire, mais tant mieux, mais qu'elles foutent le camp.
Mais alors, ne faudrait-il
pas s'en aille.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on se dise, nous, Suisses, profitons au moins des quelques millions qu'ils pourraient nous rapporter.
Mais ça, c'est une mentalité assez maigre.
Sébastien Maillard.
Ça, c'est une toute petite mentalité. Ça veut dire qu'on est d'accord de se rendre complice à partir du moment où on peut se payer une BMW. Ça nous fait ressembler à quoi exactement ?
C'est les propos de Bert Flückiger, mais qui défend un peu le service social.
Bert Flückiger, il défend ça en disant mais faisons de l'argent, c'est comme ça qu'on va payer votre AVS, c'est comme ça qu'on va payer tout ça.
Mais c'est parce qu'on...
Et on se fout de la gueule de qui ?
Parce qu'on parle de redistribution. On dit gardons ces entreprises parce que comme ça au moins elles payent. Elles nourrissent les caisses collectives,
oui,
et puis après, comme ça, on peut redistribuer cette manne. Et puis pour finir, on remarque que, un, les taxations sont extrêmement faibles, et deux, la redistribution, elle n'existe pas.
Ouais,
ou en tout cas, elle n'existe, mais elle est
proportionnellement.
C'est du peanuts.
Enfin, je dirais autant. Et puis, interdire à ces entreprises d'aller exploiter d'un côté.
Ce qui est quand même le plus grave, c'est qu'elles payent très peu d'impôts dans les pays où elles travaillent, quoi, où il y a des exploitations.
Oui, parce que ces multinationales, elles ont des pouvoirs qui sont quasiment similaires à ceux des pays dans lesquels elles vont exploiter du pétrole. Enfin, je veux dire, elles sont énormes. 140 milliards de chiffre d'affaires pour Glencore, c'est l'équivalent du PIB de la plupart des pays subsahariens. Je veux dire, à partir de là, il faut bien se dire qu'on lutte pas là, que ces pays ne luttent pas à armes égales contre des multinationales de cette taille. C'est gigantesque. Donc si les pays occidentaux, qui ont encore des gouvernements qui tiennent un tout petit peu la route, n'ont pas le courage de faire quelque chose par rapport à ça, et puis de dire non, le respect des droits humains passe avant la cupidité et l'appât du gain, c'est vraiment qu'on a un problème. Donc la responsabilité, elle nous incombe. Ici, chez nous, de faire quelque chose.
Oui, mais il y a effectivement l'observation des droits humains, mais il y a aussi la possibilité de rendre effectivement un peu plus riches les pays dans lesquels ces extractions sont. Alors qu'on remarque que ce sous-sol, la richesse du sous-sol, elle est complètement bradée. La corruption fait que les gens se sucrent au passage, que les caisses des États ne sont pas du tout renflouées par ce travail qui est par cette richesse immense. On parle du pétrole, mais on pourrait parler du cuivre,
tungstène. Le chiffre que je cite dans le nom du père, c'est que l'argent du pétrole au Nigeria n'arrose qu'un pour cent de la population. Ce sont des milliards, il n'y a qu'un pour cent de la population nigériane qui profite de cet argent-là. Or, c'est leur sol qui est exploité.
Oui, oui. Bon, comme je disais au début, pour le Nigeria, qui a une économie assez diversifiée, c'est toujours 1%, c'est toujours trop peu. Le Tchad, il est complètement sous perfusion
Il dépend
sous l'influence du pétrole.
Voilà, bon, on a fait un bon tour de cette situation du pétrole qui est ô combien compliquée. On aura l'occasion d'en reparler, Fabio, j'imagine, un petit peu aux environs de l'automne, quand cette initiative sera déposée.
Juste peut-être un petit mot pour que Sébastien puisse nous dire que c'est une trilogie, donc il y aura un troisième.
Le troisième.
Je pense que c'est juste bien, peut-être. Non, je ne sais pas si on peut déjà l'annoncer, mais je crois que c'est.
Oui, je crois qu'on peut l'annoncer.
Oui. Donc il y aura un troisième livre.
Il y aura donc un troisième, je suis dessus. Après, je ne peux absolument pas articuler de date de sortie ou quoi que ce soit. Je ne sais à peu près pas du tout le contenu.
Eh bien, vous nous le transmettrez, puis on aura l'occasion de se revoir à ce moment-là.
Absolument.
Comme ça, on fera l'analyse de la trilogie. Merci beaucoup, Sébastien Meyer.
Merci à vous.
D'être venu mettre en lumière les arcanes de l'univers des matières premières et le rôle de la Suisse dans le négoce fort rentable, ma foi. On rappelle le titre de votre livre, Le nom du père, aux éditions Zoé. Oui. Donc on peut trouver dans toutes les grandes librairies.
Absolument, même dans les petites.
Même dans les petites,
j'allais dire. Dans les petites.
Merci beaucoup, et puis merci également à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet. Et puis Fabio, la semaine prochaine avec toi, nous parlerons de l'industrie du textile avec Olivier Longchamp de la Déclaration de Berne.
Oui, c'est ça.
Voilà. Bon programme, et puis c'est une suite de sujets qu'on peut retrouver bien sûr sur notre site www.django.fm. Et on rappelle encore brièvement les trois endroits, si je me retrouve dans mes papiers, où on peut actuellement se rendre pour cette exposition au nom du profit. Tout est permis, Fabio.
Alors, il y a plusieurs...
Cinq endroits, hein, sauf erreur si ma mémoire est bonne. Voilà, l'espace Dickens, la maison de quartier Sougar, Alliance Sud Infodoc et Pôle Sud jusqu'au mois d'octobre. On peut venir participer à une série d'événements autour de ce thème commun consacré aux multinationales. Au nom du profit, tout est permis.
Ouais, et puis le prochain événement, il se passera ici à Pôle Sud. Et il a comme titre « L'obsolescence programmée, version durabilité planifiée ». Une conférence de François Martaler.
Eh bien voilà, c'est intéressant, on prend bonne note. Merci beaucoup messieurs, et à la semaine prochaine Fabio.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Les mardis de Stéphane Venanzi, c'est des coups de cœur et des coups de griffes à propos d'événements culturels divers et variés en région lausannoise. En 1999, Léon Francioli, décédé le 9 mars dernier, trouvait dans le moyen métrage Répétition un écrin, de sa démesure artistique et humaine. Notre chroniqueur Stéphane, qui avait eu la chance de voir le film à l'époque au Cinéquanon, avant de le retrouver récemment sur Internet, nous évoque ce magma d'images et le son de son émotion.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
Jean-Luc Haut est musicien. Il aurait pu être télégraphiste ou encore installateur sanitaire, mais c'est comme ça, il a décidé d'être musicien. Spécialisé qui plus est dans l'emploi d'instruments pas nécessairement très modernes ni très maniables, tels que le clavecin ou l'orgue. Difficile en effet de transbahuter sur son dos tant l'un que l'autre lorsqu'on part en randonnée dans les Cévennes. Pour cela, il vaut assurément mieux gratouiller une guitare ou souffler dans un pipeau, ça encombre moins. Mais peut-être Jean-Luc Haut n'apprécie-t-il de toute façon guère d'aller se promener en forêt. Allez savoir. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour vous raconter sa vie. Vous pouvez facilement en trouver le résumé sur l'internet. Si je vous l'évoque aujourd'hui, c'est parce que l'un de ses derniers disques est entièrement consacré à William Byrd, qui, je vous l'apprends tout de suite au cas où vous ne le sauriez pas, n'a d'ailleurs aucun lien de parenté avec le jazzman Donald Byrd, dont le patronyme complet était, accrochez-vous bien, Donaldson Toussaint Louverture Byrd II, ce qui ne s'invente pas. Bref, William Byrd était un compositeur et organiste anglais de la Renaissance. Si cette information, outre l'extrait que vous venez d'entendre, ne vous suffit pas, là aussi je vous conseille une rapide recherche en bibliothèque ou sur l'internet. De toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal de vous cultiver un brin. Pour les autres, ceux qui sont restés à l'écoute et que ça intéresse, sachez donc que Jean-Luc O viendra le samedi 21 mai à 17h à l'église Saint-François interpréter un récital intitulé William Byrd, le maître des virginalistes. Comble de bonheur pour les radins et les fauchés, l'entrée est gratuite. Et si vous êtes assez rapide, vous arriverez même certainement à vous esquiver avant la collecte effectuée au terme du concert. Sinon, prévoyez quelques petits sous que ça teinte dans la sébille du curé. À la semaine prochaine.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
Radio Django, la rose des vents.
18h40, les regards croisés maintenant dans la Rose des Vents, c'est avec Erika. Bonsoir Erika.
Bonsoir Fabien.
Alors ce soir, tu as prévu de parler d'éducation, un sujet énorme que l'on pourrait aborder de différentes façons, n'est-ce pas?
Oui, vu la richesse des expériences et des opinions sur le sujet qui touche chacun de nous, je vous propose une série de 3 capsules sur l'éducation. L'idée est d'avoir l'avis de 3 personnes provenant de 3 continents différents. Leurs expériences seront comme d'habitude confrontées avec une personne née en Suisse. Je vous assure que les opinions sont seulement au sein des Suisses sont bien divorcés.
Ouais, effectivement, j'imagine. Hein. Alors, on commence par quel continent, Erika, aujourd'hui?
J'ai choisi de commencer par le nôtre, l'Europe, plus précisément au Portugal, car les Portugais représentent l'une des plus rares communautés étrangères résidant en Suisse. En fait, nous avons parlé avec João Sousarte, éducateur spécialisé résident en les cantons de Vaud depuis 1990. Ses opinions sont aujourd'hui confrontées avec celles-là de Nathalie, une mère au foyer habitant de Faverges, qui nous parle de ses expériences.
Bon, alors c'est parti, on y va avec la découverte de l'Europe et nos deux invités.
Occupation.
Éducateur spécialisé.
Avez-vous des enfants?
Oui, j'ai 3 enfants.
Pays d'origine?
Je suis né à Lisbonne, au Portugal.
Activité préférée?
Le jardinage et l'éducation.
Prénom.
Nathalie.
Occupation.
Mère au foyer.
Avez-vous des enfants?
Oui, 2.
Canton d'origine?
Genève.
Activité préférée?
Alors, jardinage, bricolage, cuisine. Alors, l'école obligatoire commence à l'âge de 4 ans. En fait, et elle finit à 16 ans. Ou après, à 16 ans, on peut faire des apprentissages ou continuer les études supérieures ou autres.
Alors, au Portugal, actuellement, la scolarité est obligatoire jusqu'à la 12e classe. 12 années, ça veut dire à peu près jusqu'à 16, 17, 18 ans, ça dépend. Il y a une première phase avec 6 années primaires. C'est un peu comme ici en Suisse, en fait. Et puis, normalement, les enfants passent au lycée à partir de 12 ans et puis font une scolarité normalement pour essayer d'aller vers l'université.
Bah, disons que c'est très axé sur la concurrence, en fait. Il n'y a pas trop... C'est toujours ouais, le meilleur, il faut être le meilleur. Faut... Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça fait des enfants individuels. Et voilà, c'est vrai que ça pousse à la compétition, ce que je trouve vraiment dommage. Positif, franchement, je ne vois pas trop.
Il y a une grande liberté d'éducation en Suisse. Par contre, c'est vrai que des fois, c'est un peu complexe puisque chaque canton met ses directives et tout ça. Mais en même temps, les parents ont un mot à dire sur l'éducation de ses enfants, ce qui est une bonne chose. En comparaison avec le Portugal, où l'éducation est nationale, ça veut dire que tout ce qui est décidé de ce que les enfants vont apprendre aux écoles, c'est décidé au ministère. Les familles ont très peu à dire. Alors, je trouve qu'en Suisse, on a quand même un peu plus de conscience sur ce que les enfants vont apprendre ou pas.
Il y a Pierre Rabhi, là, c'est sa fille, elle a créé une école en France, en Ardèche, je crois, où justement c'est vraiment axé sur les valeurs, même sur la nature. Ils apprennent aussi le jardinage, ils apprennent vraiment des choses plus intéressantes, je dirais, que nos systèmes actuels, en fait, qui poussent à être trop individualistes. Là, c'est plus une école où on est plus en accord avec les autres, la nature, l'aider, faire les choses ensemble, qu'il n'y a pas dans nos systèmes actuels, en fait.
« La bonne chose avec la Suisse, c'est qu'il y a un système presque tripartite, on va dire, où on essaie de trouver à un certain âge si les enfants ont vraiment des capacités intellectuelles pour aller à l'université, ou si c'est leur intérêt aussi, ou des enfants qui ont un intérêt sur la vie pratique avec des temps manuels, etc. Et dans ce cas, ils sont dirigés vers un apprentissage. Et puis, si ces enfants, à un moment donné, veulent quand même faire une éducation supérieure, ils peuvent à tout moment essayer de revenir de nouveau dans la filière pour entrer dans une autre école, dans l'université.
C'est pas évident non plus, parce qu'un enfant à 15 ans, qu'est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il veut faire dans la vie une fois adulte? C'est vrai qu'on pousse les enfants à s'engager dans certaines directions que à 30 ans, 40 ans, ils vont peut-être regretter parce que non, c'est pas ça que j'aurais voulu faire, mais comme le système nous oblige à choisir une direction jeune, c'est vrai que il y a beaucoup de déçus de la vie au final à la vie, en fait.
L'entrée à l'université au Portugal se fait par numerus clausus. Ce qui n'est pas, par exemple, en Suisse. En Suisse, tout le monde peut entrer en université et puis ce tri se fait dans la faculté. Ça veut dire que les deux premières années en Suisse, faculté, sont très, très poussées. Au Portugal, si on a vraiment des très bonnes notes pour entrer, par exemple, à la faculté de médecine, on peut entrer et puis, on fait un cursus normal. Parfois, peut-être, on va devenir pas un très bon médecin, mais on arrive à passer tous les examens, etc. Et je trouve que, tout d'un coup, ce sont déqualifiés parce qu'il y a beaucoup d'universitaires qui doivent revenir après à faire de formation dans le tertiaire, qu'ils n'arrivent pas à trouver dans l'emploi pour le cursus qu'ils ont fait.
Avec de la musique de Fado moderne. Merci beaucoup Erika, on se retrouve le mois prochain pour la suite de cette série de 3 capsules sur l'éducation.
Radio Django, 18-19h.
Et puis, comme chaque mois, nous passons au portrait du mois, le portrait qui est signé Aline. Aujourd'hui, nous passons à une personne qui est née en Corée en 1973, une chanteuse et chorégraphe. Elle s'appelle Yongsoon Cho Jacquet, qui vit depuis 1999 en Suisse, à Lausanne précisément. Elle y a fondé la compagnie Nuna et sa famille. Aline l'a rencontrée juste après son spectacle tout public intitulé Sugunga, qu'elle a donné le mois passé au Petit Théâtre de Lausanne. On y entend un enregistrement réalisé par la compagnie lors d'un spectacle scolaire.
Yongsoon, là c'est un enregistrement que vous avez fait pendant votre spectacle Sugunga. Est-ce que tu te rappelles pourquoi les enfants riaient à ce moment-là?
C'est chaque fois différent. Il y a des moments où on attend Dieu qu'il fait rire, mais en fait pas du tout.
C'est plein de surprises en fait. Il y a des choses, tu pensais que ça allait les faire rire et il n'y avait pas de réaction et d'autres fois oui.
Oui, même adulte aussi, ça arrive des spectacles, mais spécialement avec les enfants, on ne sait pas du comment ça marche.
Mais ton fils, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport au spectacle?
Il a suivi pendant création, aussi il a vu plusieurs spectacles. Après, il nous donne avis, oh, c'était trop court, il faudrait attendre un peu plus. Il nous donne des avis comme des dramaturges.
Comme des dramaturges. Dramaturge, c'est ton mari, en fait. C'est lui qui t'a aidé à monter ce spectacle, non?
Oui, Christophe Jacquet, depuis tout au début de mon travail avec la compagnie qui a monté, voilà, il a beaucoup aidé pour recherche. Et puis, au bout d'un moment, il devient un peu inspecteur, comme la police. On appelle ça police parce que c'est vrai, comme il voit un peu des choses type extérieur, même ton intérieur, il nous dit ça presque fou rouge, fou vert. Il est très dur, mais tant mieux, comme ça, plus tard, tu recevras des critiques, ça fait pas de deux effets. C'est un pratique pour être dur.
Ça te fait ta carapace.
Ah oui, c'est vrai, ça fait, ouais, ça fait carapace qui devient protection. Oui, tout à fait. Oui, on entend un son qui se crée comme baleine sur scène. Et puis les enfants, tout de suite, ça réagit.
Pas seulement dans ce spectacle-là, mais dans d'autres spectacles aussi, tu fais appel à tes origines coréennes. Là, c'est en l'occurrence un pansori.
Si, ce pansori, c'est un répertoire coréen traditionnel. En fait, une personne avec un musicien tambour qui fait comme opéra, mais c'était plutôt public, n'importe où, qui se créait, qui raconte des histoires. Des fois, celui-là qui dure 4 heures sans arrêt. Du coup...
Là, c'est toi qui crie.
Non, c'était Héloïse Heidi Frashburg, qu'elle est chanteuse, yodeleuse. Aussi, on a fait travailler ensemble pour faire la voix et le chien en même temps. Mais je trouve justement pansori, en fait, qui est tout le temps qui est le chien qui vient. Et je trouve que c'est le pansori avec yodel. Il y a quelque part qu'il y a une liaison.
Ah ouais.
Oui, du coup, c'est un peu le son primitif, comme oh, des choses qui se passent aussi. La voix aussi, onomatopée. Des fois, yodel, ça appelle la vache, appelle l'autre personne. Oh, oui, oui, oui. Ce serait comme Tarzan. C'est très primitif. Je trouvais que c'est beaucoup lié. Du coup, c'est traditionnellement été fait, mais on arrive à tirer presque contemporain une manière. Avant d'arriver en Suisse, j'avais toujours imaginé yodel, c'est la Suisse. Mais évidemment, en Suisse romande, c'est pas yodel comme les Suisses allemands, c'est très différent. Maintenant, j'ai compris, mais à une époque, c'était, j'allais imaginer pour entendre tout yodel partout dans la rue. Mais c'est pas vrai.
C'était vraiment l'image que tu te faisais de la Suisse, qu'il y aurait du yodel partout.
Oui, oui, j'avais imaginé comme Heidi qui sort partout, la montagne, bon, la montagne et les vaches, ils sont partout. Ça c'est super, mais il y a yodel qui manquait. Ça c'est pourquoi je travaille aussi un autre projet. Il s'appelle Heidi. C'est justement Héloïse Heidi Frashburg. On a fait créer ensemble. Du coup, j'avais fait aussi une performance inspirée par l'esprit suisse, un chalet. C'était vraiment les meubles, les tables, les chaises croustiques, comme dans les chalets, on peut trouver les formes de cœur. Je le vois. Et avec ça, petit à petit, les meubles qui se détruisent et qui deviennent un cabane, un chalet.
Tu avais fait aussi un spectacle où tu étais un petit peu dans un rôle de chamane. Ça, c'était aussi lié à tes traditions coréennes?
Oui, c'était pour c'est vrai. C'était il y a 13 ans peut-être. Ce chaman en Corée, c'est très vive dans la vie. Nous, on va tous aller voir ce chaman qui font aussi musical percu. Qui danse aussi. Aussi, ça peut aussi une fois par année pour aller voir tout ce c'est quoi l'avenir de cette année. On peut danser style, ça c'est généralement. Et puis, j'étais petite, mon grand-père il est mort. On a dû faire une cérémonie pour lui. C'était grand, grand festif. Il y a des musiciens, après le chaman qui travaillait avec l'esprit de mon grand-père. Ça m'a fait beaucoup de souvenirs. Du coup, tu connais ça. Aussi, des fois, nationalement, ils font des... Si jamais au bord de la mer, il y a tempête. Aussi, le roi dragon qui vit dans la mer, ils font ça pour se calmer.
Et donc, le chamanisme, il est présent dans la vie quotidienne.
Exact. Même si le chrétien, il va aller voir le chaman.
comment tu t'es lancée dans la danse?
Probablement, j'avais toujours intéressé au niveau artistique. Comme j'avais tout petit, l'âge de 10 ans, j'ai commencé fait comme les autres à l'école, on fait des théâtres. Tu vois, il y a une des profs qui me dit « Ah, mais tu fais bien !» Peut-être j'étais vachement impressionnée comment le retour aussi, ça me fait confiance. Même j'ai créé un petit groupe pour faire écrire un scénario, on montait un théâtre. Mais petit à petit, ça, j'ai continué le travail artistique. Même à l'école, il y avait un groupe de la danse, musique traditionnelle coréenne. J'ai participé pendant 3 ans, on faisait beaucoup de spectacles partout. Et après, j'avais aussi lancé auprès du théâtre comme la danse, jazz, ballet. Je trouvais ces comédies musicales à un côté, je trouvais que c'était très attirant. Du coup, ça m'a amené jusqu'à ici.
Quel a été ton déclic en fait pour te dire voilà, je quitte la Corée, je pars à Londres?
C'est coup de foudre. J'ai vu aussi le système de la Corée et qui ne me va pas. Je trouve dans cette hiérarchisme, pour moi, ça ne marchait pas.
C'était très hiérarchique en fait.
C'était une décision assez forte, hein. Même presque j'avais sensation que j'ai rien à faire en Corée. J'avais sensation que j'étais très fort à cette époque. Je ne sais pas pourquoi ça a été comme ça, mais un changement de vie, on écoute et puis on suit. Et puis le reste qui m'aide pour arriver.
Parce que finalement, tu as pu avoir une bourse d'études pour Londres ou bien c'est tes parents qui t'ont aidé financièrement?
Au début, les parents qui aidaient, mais deuxième année, Corée, il avait économique problème, immense problème. C'était 3 fois de plus l'argent qui devait verser mes parents. Du coup, ils disent « Oh là là, ils n'arrivent pas ». Mais j'étais tellement inquiète. Du coup, j'ai demandé à l'école et puis du coup, voilà, ils m'ont donné scholarship. Du coup, j'arrive à finir mon école. C'était une histoire aussi. Oui.
Tu es venue en Suisse pour la compagnie Fabienne Berger.
À la fin de mon étude, tu vois, c'est l'audition, mais j'étais prête à faire aller partout. Mais grâce à Fabienne, j'ai rencontré mon mari aussi. La deuxième création que j'ai faite avec Fabienne, c'est Christophe Jacquet aussi, groupe de Velma à cette époque. On a fait ensemble les collaborations. On était opéra de Lausanne ensemble sur scène. Presque on se rencontrait sur scène. C'est belle histoire.
Et vous pouvez retrouver quelques bonus de cet entretien et le portrait écrit de Yongsoon Cho Jacquet, paru dans l'événement syndical il y a quelques jours. Tout ça sur notre site internet www.django.fm. Et pour connaître l'actualité de la danseuse et chorégraphe, voici son site www.cienuna.com. On vous a mis le lien bien sûr sur le nôtre. Quatre sujets au sommaire de ce grand direct, 55e du nom. Le pétrole était à l'honneur dans la campagne au nom du profit. Et nous parlions également du polar de Sébastien Meyer, le nom du père. Les mardis de Stéphane Benanzi, c'était tout à l'heure également. Les regards croisés sur l'éducation, premier d'une série de 3. Et le portrait du mois de Yongsoon Cho Jacquet. Voilà, c'était le programme de ce mardi 17 mai sur Radio Django dans le grand direct. Tous ces sujets sont à retrouver comme chaque semaine en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, on continue la thématique du profit. Nous parlerons du textile. Ça tombe bien, quelques jours de la presque faillite de Switcher, nous parlerons de ce sujet chaud dans l'actualité. Et puis, quelques découvertes musicales, ce sera notamment avec Troc. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain pour être précis, pour un nouveau grand direct. Ce sera à partir de 18h. Une émission, comme chaque semaine, en direct et en public de Pôle Sud. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programme. Il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.